Vous écoutez l'émission Autour du Livre avec Annick sur RTVFM.
Bonsoir et bienvenue chers auditeurs et auditrices dans cette émission Autour du Livre. Vous trouverez tout au long de cette émission deux interviews d'auteurs, la chronique littéraire de Dominique Lain, une pause littéraire avec la lecture d'un extrait de roman d'une auteure, des petites annonces autour du livre, donc les événements en ce mois de juin-juillet, ainsi que de la musique, et plus précisément de la chanson française. Pour cette émission du mois de juin, je voudrais rendre hommage à une femme que j'ai beaucoup aimée, que j'aime beaucoup toujours, encore bien sûr, qui nous a quittés bien trop tôt, à l'âge de 57 ans, ce 7 mai 2018. La chanteuse Mourane, que nous écouterons donc tout au long de cette émission. Un choix, une sélection de chansons que je dédie à Ivan, mon compagnon. Mourane, donc de son nom d'artiste, née en 1960, le 12 novembre, en Belgique. Auteur, compositeur, interprète, comédienne aussi. Donc nous sommes ensemble pour une heure, et pour commencer, nous allons écouter Marie Kokadjatandi, qui est une auteure de littérature jeunesse, qui a aussi créé sa propre maison d'édition, Iris Noir. Mais juste avant cette interview, dont nous allons écouter Mourane, qui nous interprète sur un prélude de Bach.
Lorsque j'entends ce prélude de Bach par Glenn Gould, ma raison s'envole vers le port du Havre et les baraques et les cargos lourds que l'on rafistole et les torchers. Citerne de gasoil, et toi qui courais dans mes flaques, et moi et ma tête à claque, moi qui te croyais ma chose, ma bestiole. Je n'étais qu'un pot de colle. Lorsque j'entends ce prélude de Bach par Glenn Gould, ma raison s'envole et toutes ces amours qui se détraquent et les chagrins lourds. Et toutes mes erreurs de zodiaque, et mes sautes de boussole, et toi, les pieds dans les flaques, et moi, et ma tête à claque, j'ai pris les remorqueurs pour des gondoles. Et moi, moi je traîne ma casserole dans cette décharge de rêve en Pâques qu'on bazarde au prix du pétrole. de col blanc et des corbacs.
Écoutez l'émission Autour du Livre avec Annick sur RTVFM.
Mariko Kadja Tanguy, bonjour.
Bonjour.
Alors Marie, vous êtes romancière de polar, thriller et vous avez aussi une autre facette qui est auteur de littérature jeunesse. Vous habitez le Gard. Qu'est-ce que c'est qui vous a amené à commencer à écrire? Alors, vous avez deux styles différents, mais justement, qu'est-ce que c'est qui vous a amené à écrire d'abord des romans et puis après vous intéresser à tout ce qui est littérature jeunesse ?
Eh bien, dans la mesure où j'écris des romans assez sombres, la littérature jeunesse, qui est un peu plus souple, un peu plus léger, voilà, me permet justement de trouver un équilibre dans cette écriture. La littérature jeunesse, en fait, ce sont des histoires que je racontais à mes petits-enfants. Et finalement, j'ai décidé de partager une histoire, deux histoires. Et ensuite, il y en a d'autres qui sont venues. Et j'ai impliqué mes petits-enfants aussi dans la rédaction de plusieurs ouvrages afin de leur donner le goût du livre en tant que tel, c'est-à-dire en tant que du livre-objet, et que justement, ils puissent avoir ce recul par rapport au numérique, aux tablettes, tout ça. Je trouve que c'était très important, justement, de fait que leur grand-mère écrite, justement, leur laissait quand même quelque chose.
Un bel héritage.
Un bel héritage dans le livre, tel qu'on l'aime, tel qu'on l'a connu, nous, et qu'on espère perdurera.
Alors, au niveau illustration, comment ça se passe? Pour la littérature jeunesse, ce sont des livres qui sont illustrés. Comment vous travaillez avec une illustratrice?
Alors oui, parce que j'ai aucun talent pour ce genre de choses, chacun son métier. Donc je travaille avec un illustrateur professionnel, Frédéric Cartier-Lange, avec qui je travaille depuis le début. Il illustre mes ouvrages, je lui donne le texte, et ensuite on décide du nombre d'illustrations qu'il aura à mettre. C'est lui, après il va faire la maquette, qui va choisir les pages où mettre les illustrations. Et c'est lui aussi qui crée les premières de couverture de mes romans. En tant que graphiste aussi. Donc on travaille ensemble depuis des années.
Ah oui. Alors justement, depuis des années, depuis quand vous avez commencé, Marie, à écrire?
Ben, ça fait 9 ans maintenant que... Enfin, mon premier roman est sorti il y a maintenant 9 ans. Voilà. Oui. Et l'écriture est venue... Ben écoutez, l'amour des mots, je l'ai depuis petite. Le vocabulaire, surtout. J'adore le vocabulaire. Je suis une grande amoureuse du vocabulaire, des mots inusités. Mais de là à écrire, bon, ben, c'est pas non plus évident. J'ai pas fait d'études littéraires, donc je m'accordais pas vraiment ce droit. Et puis j'ai eu un grave problème de santé qui m'a vraiment failli partir très loin. Et j'en suis revenue. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit que j'allais enfin pouvoir assumer ma passion et sans tabou. Voilà. Et c'est comme ça que mon premier roman est sorti pour moi, hein, une histoire que j'ai écrite pour moi. Et puis, sensiblement, l'histoire a plu. Mon mari m'a encouragée. Et puis, voyez, aujourd'hui, j'ai terminé la rédaction de mon 6e roman et nombre de livres jeunesse aussi. Et je travaille avec les écoles dans ma région. Donc, ça m'a vraiment ouvert un horizon vraiment absolument exceptionnel.
Formidable. Alors, Marie, vos livres sont donc édités dans quelle maison d'édition ?
Alors, c'est simple. C'est mon mari et moi-même avons créé notre propre maison d'édition qui s'appelle les éditions Iris Noir. Donc, de fait, on gère tout. Hein, et ça fait plusieurs années que l'on fonctionne de cette manière. Et donc, ça nous va très, très bien. Donc, y a pas, c'est, on va dire, on fait ça en circuit court, si vous voulez, pour parler plus moderne en ce moment. Et ça marche très, très bien depuis plusieurs années. Donc, je n'ai pas du tout l'intention de faire autrement. Ça nous convient très, très bien.
Et vous avez donc d'autres auteurs qui viennent vous voir ou quoi?
Alors, c'est tout à fait possible, mais je ne le fais pas parce que vous avez vu la production que j'ai. Donc, ça me suffit largement au niveau du travail, de l'activité. Oui. Donc, ça me suffit. Mais c'est tout à fait possible. Mais on ne l'a pas fait dans ce but. Hein. Oui, il y a des auteurs qui me demandent régulièrement à ce que je les ai dites, mais bon, je suis à un stade de ma vie où j'ai envie de me faire plaisir et de ne pas me mettre de contraintes. Voilà.
Vous avez bien raison. Et vous êtes donc de la région du Gard, plus précisément quel village?
Alors, pour tout vous dire, je suis bretonne en fait, mais j'habite dans la région j'habite dans le Gard, près de Nîmes, on va dire, un petit village qui s'appelle Saint-Dionysie, qui est sur la route de Sommières. Pour situer géographiquement, c'est plus parlant de dire ça.
Alors, Marie, donc, romancière, auteur de littérature jeunesse. Donc vous avez écrit, à ce jour, vous avez écrit combien de livres déjà?
Alors il faudrait que je les compte, j'ai dû écrire 14 livres, 6 romans et tout le reste en livre jeunesse. Hein, album illustré et ensuite conte fantastique pour les enfants en première lecture.
Dans vos romans, donc polar, thriller, est-ce que ce sont des sagas? Est-ce qu'il y a une suite?
Alors non, ce sont des histoires à part entière qui sont parties de choses qui m'ont interpellée personnellement dans ma vie ou tout au moins qui... des choses qui sont arrivées à mon entourage proche. Et j'aime bien aussi traiter l'effet de société, en partir du moment où on a une façade, et j'aime bien savoir ce qu'il y a en arrière, en amont, et des choses qui parfois sont difficiles et qui peuvent emmener jusqu'au drame. Et c'est ce qui m'intéresse, pourquoi on peut en arriver jusqu'au drame, jusqu'à une issue fatale, justement. C'est ce qui m'intéresse, c'est de creuser cette psychologie-là des personnages pour comprendre.
Et pourquoi plus particulièrement cette chose-là?
Parce que je suis très observatrice et donc je suis un peu une éponge et je me dis que parfois on peut avoir une personne avec une image paternaliste par exemple et puis en fait derrière ça il y a c'est très trouble, il y a autre chose et on le vérifie tous les jours par les actualités, les choses, les serial killers, tout ça qui ont finalement dit « Ah mais il était gentil, oui mais ce qui m'intéresse ».
Merci Marie. Eh bien, vous avez d'autres projets d'écriture
ou... Oui, mon 6e roman qui va sortir à la rentrée, et puis des projets de littérature jeunesse aussi. Voilà.
Bon programme. Vous pouvez retrouver Marie Kokadja Tanguy dans des salons autour du livre, mais aussi sur son site www.kokadja-tanguy.fr. Une deuxième chanson avec Mourane. L'un pour l'autre.
Yabotambola nangai. Ils sont faits l'un pour l'autre. Comme le yin pour le yang, comme le goût pour la langue, l'un pour l'autre. Un dieu pour la terre, l'un pour l'autre. Crève les yeux tellement c'est clair, l'un pour l'autre. Séparés. On ne le pourra jamais. Oh non, non, on ne pourra jamais les séparer. Jamais les séparer.
Écoutez l'émission Autour du livre avec Annick sur RTVFM.
Une deuxième invitée dans cette émission, c'est Nathalie Di Meglio, que je vous laisse écouter. Et tout de suite après cette interview, vous pourrez écouter donc une autre des compositions de Morane, Si aujourd'hui. Nathalie Di Meglio, bonjour.
Bonjour.
Alors Nathalie, donc vous écrivez du fantastique contemporain, donc vous en êtes à votre premier roman, deux tomes déjà sont sortis, un troisième en cours, donc aux éditions Point Virgule. Cet ouvrage est illustré.
Oui. Alors oui, c'est un choix au début quand j'ai contacté Jean-Mathias Xavier avec qui je travaille, c'était pour la couverture tout simplement du livre, hein. Mais quand il m'a envoyé les planches, il m'en a envoyé 6. Et c'était très dur de choisir. Du coup, l'idée est venue de mettre 5 illustrations à l'intérieur de chaque tome. Et ça a été génial de pouvoir se transformer les lignes de mon livre en illustrations.
Oui, là, c'est vrai que quand on a l'image en même temps, hein, c'est beaucoup plus parlant, quoi.
C'est une autre vision et c'est vraiment un plaisir de voir apparaître les personnages ou l'idée qu'il y a au travers des lignes.
Et le contact s'est fait très rapidement avec cet illustrateur. Comment ça s'est passé?
Alors, j'ai eu la chance lors d'un salon des pyramides de la Grande Motte qu'il y avait il y a quelques années de croiser ce monsieur qui illustrait Jean-Luc Marcassin. Castel, qui est un auteur connu et reconnu. J'ai sympathisé et quand j'ai sorti mon livre, je l'ai contacté, on a très longuement discuté et il a été d'accord pour travailler avec moi.
Alors vous êtes dans le Gard actuellement ?
Oui, tout à fait, j'habite dans le Gard mais je travaille sur Montpellier.
Alors comment vous est venue, vous, l'idée de commencer à écrire ce style de roman, L'Ordre des Gardiens, on va quand même dire le titre, L'Ordre des Gardiens. Comment vous est venue l'idée de commencer ce premier roman?
L'idée des gardiens, c'est préserver les mémoires des hommes. À la base, c'est la petite idée que j'avais toujours en tête. Et un jour, il a fallu qu'il jaillisse, c'était en avril 2009. J'ai commencé les quelques premières lignes et 5 mois plus tard, je couchais le tome 1 sur le papier. J'ai l'impression qu'il a toujours été là et qu'il fallait qu'il sorte. Voilà.
Et est-ce que déjà, toute jeune, vous étiez quand même inspirée par déjà ce style d'histoire ou pas?
J'ai toujours beaucoup aimé la lecture fantastique, j'ai toujours aimé les films fantastiques. Oui, c'est un univers dans lequel je me plais et dans lequel j'aime m'épanouir.
Donc on répète, L'Ordre des Gardiens aux éditions Point Virgule. Donc 2 tomes sont déjà sortis, le troisième est en cours.
Le troisième est en cours de correction. Je suis en train de travailler avec Elsa Chelaz, qui est un écrivain public, qui m'aide dans ce parcours-là. Et logiquement, il devrait sortir pour cet été.
Alors, donc il y aura 3 tomes, donc je ne pense pas qu'il y en aura un quatrième, non? Est-ce que vous avez d'autres idées après de romans? Vous avez déjà des choses qui ont germé ou pas?
Oui. Ouais. Bien sûr, oui, j'ai déjà écrit une centaine de pages sur un prochain roman qui sera un one-shot. Je compte pas faire une autre trilogie parce que c'est très compliqué et très long après à retravailler derrière. Donc oui, je vais me rester sur l'univers fantastique, mais là, sur la réincarnation, on va dire.
Un grand sujet là, hein.
Voilà. Exactement.
Donc, et toujours dans le fantastique malgré tout.
Complètement, hein, toujours dans le fantastique. Et je partirai bien sûr toujours de ma région, du côté de Nîmes. Et on ira explorer peut-être le domaine un peu plus du côté du nord, voir les Vikings, on verra.
Waouh, beau programme aussi. Merci Nathalie.
Merci
à vous.
Merci.
De tourner, je t'emmènerai tranquille de ville en île, le nez en l'air pour retrouver l'été. Si aujourd'hui la mer devait s'évaporer, je trouverais dans ma poche une paire d'une pioche
et je sèmerai des fleurs sur les fonds balnéaires. Et si demain matin tu cessais de m'aimer, je ne peux pas dire que j'en mourrais, non, faut rien exagérer. Je crois seulement que j'aurais l'air d'un casino désert, d'une chaise à l'envers, oubliée sur une table. Je crois que j'aurais l'air assez minable. Si aujourd'hui le vent se mettait en colère, soufflait immensément, on irait aux étoiles, dans ma navette à voile, pour voir un clair de terre. Si aujourd'hui le ciel devenait un brasier, je te ferais flamber des soufflets d'ailes d'ange à la liqueur de miel et aux zestes d'orange. Et si demain matin tu cessais de m'aimer, dire que j'en mourrai, non, faut rien exagérer. Je crois seulement que j'aurai l'air d'un casino désert, d'une chaise à l'envers, oubliée sur une table. Je crois que j'aurai l'air assez. Buvant dans tes yeux, je suis sûr que je ferai un fantôme très heureux.
Écoutez l'émission Autour du Livre avec Annick sur RTVFM.
Pour retrouver Nathalie Dimeglio, un lien http://ordre-des-gardiens.fr. Pour clôturer ces deux rencontres, je laisse la parole à Marie et Nathalie. Et tout de suite après, une chanson de Morane, Quand tu dors. Alors, je suis toujours en compagnie de Marie et de Nathalie, donc Marie Kokadja et Nathalie Dimeglio. Donc, elles sont là toutes les deux et puis, en définitive, elles font des salons ensemble. Alors, elles vont nous dire tout ça parce que là, aujourd'hui, donc, je les rencontre et elles sont là, donc toutes les deux, à présenter leurs ouvrages. Donc je laisse la parole à Marie.
Oui, nous avons l'habitude de venir ensemble sur les salons du livre ou dans les librairies, car d'abord nous sommes rencontrés dans un salon du livre et nous avons sympathisé. Et on peut dire qu'il y a eu comme quelque chose de fusionnel, c'est vraiment, on s'entend à merveille. Et nous écrivons dans des genres totalement différents. Donc de fait, on ne se fait aucune concurrence et au contraire, on se complète. Donc on a toujours plaisir à être ensemble. On voyage ensemble, donc on discute bien, il y a vraiment, tout se passe à merveille entre nous deux.
Et depuis quand donc cette aventure?
Ça doit faire 3 ans.
Ah oui.
Voilà.
Et vous vous êtes rencontrés à quel salon en définitive?
C'était au Gros du Roi en fait. Ah oui. Voilà, au Gros du Roi. Et depuis, ben, écoutez, on habite des petits villages proches en fait, donc oui. C'est très pratique pour se prendre. Alors moi, on est très organisé en fait, ça n'y paraît pas, mais on est très organisé. Parce que moi, mon rôle, c'est de chercher des librairies, des salons du livre, où je m'inscris et où j'inscris aussi Nathalie. Enfin, je fais ma promo, je fais celle de Nathalie pour ses inscriptions. Et elle, bien, c'est elle qui prend le volant, qui nous conduit. Donc voilà.
Ouais, vous voyez,
on est très complémentaires avec chacune notre rôle bien défini et ça marche très très bien.
Super, voilà. Alors, Nathalie, qu'est-ce que vous voudriez rajouter à tout ça?
Voilà, juste pour me permettre la petite anecdote. Du coup, pour moi, Marie-Lou est devenue coach Marie-Lou. Puisque, voilà, du fait que je travaille, que je suis suffisamment prise toute la semaine, moi, c'est vrai que c'est un réel soutien et vraiment, voilà, tout ce... de recherche, ce travail de recherche sur les salons, sur les centres où on peut aller faire des dédicaces, c'est long, il faut avoir du temps et il faut suivre derrière, pas oublier à qui, à pas qui. Et du coup, moi, ça m'aide énormément de ce côté-là. Voilà, c'est un
reste. Nathalie, vous êtes toujours en activité, vous?
Oui, voilà. J'ai une entreprise sur Montpellier, donc, et qui est très prenante. Hein, voilà. Et du coup, voilà, c'est. Le fait d'avoir rencontré Marie-Lou, pour moi, voilà, ça a été une véritable rencontre. Et en plus, on se plaît vraiment à travailler ensemble parce qu'après, c'est un réel échange, un partage de la passion que l'on a pour cette écriture.
Merci beaucoup, mesdames.
Merci à vous.
Où t'en vas-tu quand...
Nous allons à présent laisser la place à Dominique Lin pour une de ses chroniques littéraires que je vous laisse découvrir.
Bonjour, aujourd'hui on va parler du livre de Aki Holikkinen, j'espère que je ne l'ai pas écorché, certainement d'ailleurs. Donc son roman s'appelle « La fin blanche » aux éditions Héloïse d'Ormesson. Justement, en sélectionnant « La fin blanche », je me suis dit « chic, de la littérature finnoise, je vais découvrir un nouvel univers » et je n'ai pas été déçu. Ce roman est un coup de poing au creux de l'estomac. Il vous prend par surprise et soit vous l'aimez, soit vous le détestez. Habitué à un certain genre de roman de chez Héloïse d'Ormesson, je ne m'y attendais pas. Exit le centre de Paris et ses personnages généralement confortablement installés, dont les problèmes feraient envie à 90% des habitants de notre planète. Dès le départ, nous voilà plongés en cette fin de 19e siècle, en Finlande, dans le froid et la famine. Je ne pense pas que nous ayons connu de telles situations en France, ne serait-ce qu'à cause du climat plus doux. Ce roman est une quête, presque une prière vers l'inaccessible, vers cette Saint-Pétersbourg mythique où Jalma espère trouver de quoi manger pour elle et ses enfants. Alors, elle part à pied. Ce texte est sombre, dur, triste, cruel, mais il vous prend aux tripes et vous ne voulez pas le lâcher. Il y a tout ce que la misère humaine peut traverser, la faim, la maladie, le froid, le rejet, le mépris, l'abandon et la mort, mais aussi certaines bonnes rencontres, l'entraide, la solidarité. La vie humaine ne vaut pas grand-chose. On ne peut pas enterrer les corps quand la terre est gelée, et quand on ne peut pas attendre le printemps, on part en laissant le corps derrière soi. De toute façon, Jalma n'a pas de ticket retour. Elle doit avancer. Plus de chez elle, plus de terre, juste cet Eldorado qu'elle doit atteindre, et tout ira mieux. Comment échapper au miroir de notre histoire, cette contemporanéité des faits qui ne cesse de se reproduire? Marcher, marcher droit devant malgré tous les risques et les pièges pour quitter un enfer. Quitter un endroit où la mort est garantie pour un autre, où elle est aléatoire. Les peuples seraient-ils condamnés à fuir leur patrie, leur terre, leur famille pour un ailleurs meilleur? La seule difficulté que j'ai eue, c'est avec les noms de lieux, de villes et de villages, ainsi qu'avec les noms et les prénoms, ne sachant pas s'ils étaient masculins ou féminins. Parfois, cela m'a freiné, voire déstabilisé, à cause du rythme de la lecture cassée. Mais même si ce livre est, comme je le disais, dur, en tout cas, c'est un très beau livre, l'écriture est magnifique. Donc il s'agissait de « La fin blanche » de Aki Holikkinen aux éditions Héloïse d'Ormesson.
C'était la chronique littéraire de Dominique Lin. Les petites annonces pour ce mois de juin-juillet autour du livre. Les rendez-vous sont nombreux en ce mois de juin. Alors, je sais, les dates sont déjà passées, mais je voulais quand même vous préciser que le samedi 9 et dimanche 10 juin, il y a eu deux salons du livre, un à Saint-Didier et un autre à Orange. Donc la cinquième édition pour le dimanche 10 juin, Livrez-vous, qui est un salon du livre à Saint-Didier, dans les rues du village. Donc il y a des animations autour de la lecture et de l'écriture, des ateliers, lecture, table ronde, dédicaces, musique. Et c'est organisé par le comité des fêtes et la mairie donc de Saint-Didier. Le deuxième salon, eh bien, c'était à Orange. À Orange, donc, samedi et dimanche. Et là, c'est la 11e année. 11e année que des lecteurs viennent du grand quart sud-est de la France rencontrer les éditeurs indépendants sélectionnés pour la qualité de leur ligne éditoriale, accompagnés de leurs auteurs et illustrateurs. Donc là, pendant une semaine, ce festival a proposé du cinéma, du théâtre, des lectures. Et pendant deux jours, donc le samedi 9 et dimanche 10, il y a eu des rencontres avec les éditeurs, les auteurs, illustrateurs, des animations autour de l'écriture et de l'illustration pour tous les âges, des tables rondes renouvelées chaque année. Voilà, c'est 11 années de partage, de découverte, avec une équipe de bénévoles de 16 à 82 ans qui met en avant ces petites maisons d'édition, pour certaines un peu folles, d'autres utopistes ou inconscientes. Être éditeur indépendant aujourd'hui, c'est peut-être un peu tout cela à la fois, nous disent les organisateurs. Donc nous continuons pour cette fois-ci des dates qui sont à venir. Le samedi 16 juin, deux événements sur Sarian et Cavaillon. Donc à Sarian, sur la place du village Jean Jaurès, une fête du livre. Sarian, Lézard. Une quarantaine d'auteurs, policiers, romans, terroirs, fantastiques, littérature jeunesse, seront présents sur cet événement. Des conférences, des ateliers pour les petits et les grands. Le deuxième événement, à la même date, donc samedi 16 juin, de 10h à 19h, eh bien voilà, c'est la deuxième édition du festival Cavart et Livre. Patrice Laffont a été le premier parrain de Cavart et Livre. Un deuxième festival à Cavaillon, en centre-ville, rue de la République, pour retrouver plus d'une soixantaine d'exposants, écrivains, artistes, peintres, musiciens, chanteurs, conteurs, chorales, caricaturistes, chroniqueurs. Le parrain de cette deuxième édition, c'est Tex. Il sera présent durant toute la journée, entouré d'autres invités d'honneur à découvrir. Juste deux noms, Patrick Hernandez, Désir Less. Le tout sur fond de dégustation du célèbre melon de Cavaillon, dont raffolait nul autre qu'Alexandre Dumas, père de plume du célèbre comte de Monte Cristo. Donc le deuxième festival Cavart et Livre est une manifestation conceptuelle organisée par l'ACAF, l'association œuvrant pour la culture, les arts et les festivités cavaillonnaises à des fins de revitalisation du centre-ville. Le président en est Franck Charlier, la secrétaire et secrétaire adjointe Annie Antonin, Laetitia Manant, trésorière Sophie Gode. Un rendez-vous à ne pas manquer à Cavaillon. Donc pour plus de renseignements, vous pouvez appeler Annie Antonin au 06 79 67 44 63 ou Laetitia Manant au 06 28 79 76 10. Donc je continue avec les petites annonces avec l'association et compagnie de théâtre Bonheur de Lecture qui se situe sur Carpentras. Alors Bonheur de Lecture va nous faire une lecture le vendredi 15 juin à 19h à la librairie de l'Horloge de Carpentras. Et là ça sera des nouveautés avec toutes les pépites qu'aura sélectionné Didier Bonnet. Didier Bonnet qui est responsable de la librairie de l'Horloge. Le samedi 21 juillet à 18h30, à la place de la Fontaine, sur Tavel, dans le 30, eh bien, ça sera une lecture d'un ouvrage d'André Benedetto, Marseille et Méditerranée. Le samedi 28 juillet à 21h, au château du Bossé, près de Carpentras, eh bien, là, ça sera une lecture d'un texte de Denis Guénon, L'Énéide. Chants 1 et 2. Nous allons à présent prendre un temps pour une pause musicale avec Morane et Adamo pour cette chanson Tant d'amour qui se perd. Suivi juste après d'une pause littéraire avec un extrait du roman de Valérie Coré À fleur d'eau aux éditions Vérone. Pour le moment, je vous laisse en compagnie de Morane et Adamo, Tant d'amour qui se perd.
Il y a tant d'amour qui se perd, il est dans l'air, au bout de nos doigts, et tant de cœurs solitaires qui se désespèrent, qui n'y croient pas, tant d'amour qui nous dépasse. Tellement il remplit l'espace de nos petites vies, tant d'amour qui nous fait peur, comme les épines sur les fleurs, on s'en méfie.
Y a tant d'amour qui se perd, il est dans l'air, il nous attend. Il est là dans sa lumière, mais il se perd, il est grand temps.
Et derrière nos solitudes, on se cache.
s'accale des illusions. Toi qui es là devant moi, oui, toi qui rêves et qui ne me vois pas. Je ne suis rien, mais je sais bien sur quelle planète tu t'envoles. Les yeux fermés, chaque fois tu en as ras-le-bol. Tends-moi la main,
je t'y rejoins.
Il y a tant d'amour qui se perd, il est dans l'air, au bout de nos doigts.
Et tant de cœurs solitaires qui se désespèrent, qui n'y croient pas.
Dois-je croire à tes serments? Est-ce qu'on va s'aimer vraiment? Et à quel prix? On en lit dans le journal des histoires qui finissent mal. Oh non, merci. Il y a tant d'amour qui se perd, il est dans l'air, personne ne le voit. Ou alors comme un enfer, comme un bras de fer, comme une croix. Une coquille noire sur la mer, on trouve sa terre, où on s'y noie. Mais sans amour on se perd, dans un désert de désarroi. Il y a tant d'amour qui se perd, il est dans l'air.
Vous écoutez l'émission Autour du livre avec Annick sur RTVFM.
Un auteur, Valérie Coré, un roman, À fleur d'eau, aux éditions Vérone. Le quatrième de couverture. Rencontrez Louise, une jeune femme touchante qui se bat pour faire face à ses maux et ses douloureux souvenirs qui l'habitent. Le combat est dur, parfois même insoutenable. Et pourtant, il faut vivre avec des cicatrices qui ne se refermeront sans doute jamais. Faire le ménage, c'est ce que feront, à leur façon, Louise et l'auteur. Le passé traumatique de l'une surgira dans la vie de l'autre. Un extrait de ce roman. Institution Saint-Antoine dans le Vaucluse, en décembre. L'hiver met la terre sous la terre. Au timide petit matin, on dirait que le soleil se recouche. C'est la première lueur du jour. L'aube, dans les lueurs apaisées de l'hiver, est d'une délicatesse de teinte irréelle. Point de luminosité voilée, comme l'as, comme celle de la pâle flamme du soufre allumé derrière un rideau de fumée blanchâtre. Elle hésite à s'allonger sur le ciel encore gris, tout en restant serein, et avec encore des étoiles qui regardent le monde. La pâle clarté s'attarde, dilatant insensiblement ses nuances de blanc et de gris, quand elle se trouve annulée par un rose subit qui dégage le ciel du dernier voile de la nuit et le rend net et précieux comme un baldaquin de satin couleur de saphir. Un feu s'allume au bout de l'horizon, comme si un mur venait de tomber, découvrant un ciel rouge ardent. Le soleil, alors, émerge sur le feuillage mordoré des arbres soumis à une mort cabotine. À peine pointe-t-il de la courbe de l'horizon que déjà il a trouvé le moyen de peindre de corail rose un flocon de nuages et de changer en diamant les gouttes de rosée à la cime des arbres. Le ciel est de plus en plus lumineux, clair, et les couleurs vagues de l'aube et de l'aurore suivent le vol frémissant du premier passereau réveillé par la fluorescence. Celui qui quitte la tuile hospitalière d'un toit voisin pour descendre becqueté au pied du vieux pommier dénudé dans la cour. Comme ces derniers jours, c'est encore une sereine mais rigoureuse matinée d'hiver. Le givre blanchit de ses cristaux le sol et les herbes, et il fait des brindilles sèches qui gisent sur la terre de précieux bijoux saupoudrés de perles. Au fil des heures, le temps change. Le ciel devient laiteux, presque trop gris, sans forme, sans murmure. Le calme plat. Rien que le silence, souligné en de gros flocons blancs dans l'air, comme secoué de la poussière du ciel. La neige, elle tombe. Plus aucun bruit. Silence. Silence assourdissant au fur et à mesure des minutes. Tout cet aspect cotonneux autour donne le sentiment de s'être infiltré jusqu'aux oreilles. Cette neige semble mettre tout le petit monde à sa dimension, transformant les paysages en une magnifique et pure minimaliste et ouatée. Cette neige-là habille tout d'un rêve pur. Cette fois, l'hiver est bien là, pense Louise. Elle avait bien remarqué que les jours se font courts et les nuits plus longues, des nuits de plus en plus angoissantes pour Louise. Et là, depuis les premières heures de l'aube, le vent glacé la serre comme un fouet. Plus que jamais, l'établissement semble engourdi dans sa gangue de silence. Au fond d'elle, Louise croit entendre un murmure. Julien. La cour est l'hôtel des courants d'air. À chaque respiration, un brouillard se forme autour de son visage. Louise se gèle. Le froid mord la peau. Elle a les doigts violacés sous les gants de laine réajustés de ses gants de caoutchouc. La chair de poule sous ses deux pulls à col roulé. Ses doigts de pied se raidissent à la faire hurler de douleur. Elle se masse un peu, mais c'est pire. Le vent s'engouffre sous les arcades des toilettes et par les pores de sa peau. Les latrines sont à nouveau toutes bouchées encore. Merde, merde, merde! Elle trébuche sur un sac plastique laissé là, près des vasques. Excédée, épuisée, rageuse, se croyant moquée par des regards indiscrets, elle imagine même que cet emballage lui en veut, à elle, seulement à elle. À bout de nerfs, les larmes subitement coulent. Louise n'en peut plus. Elle sent bien qu'elle est au bout de tout. Le sommeil sur toutes ses nuits demeure la proie misérable de l'insomnie. Elle déserte son corps, comme s'il devait s'habituer à tout. Au plus innommable, au plus dégradant, son corps encaisse. Elle parle de moins en moins autour d'elle. Elle est ivre, gavée d'attente. Elle finit par ne plus savoir ce qu'elle attend. La plupart des collègues l'évitent, la méprisent. Au fil des semaines et des mois, son crâne devient une boîte vide, dans laquelle ses problèmes rebondissent comme des balles de ping-pong. La merde des autres, l'absence du fils, les coups durs, les mots et les comportements destructeurs. Les silences, l'absence, la merde des autres, les mots, les coups durs, les autres, comportements destructeurs. Elle n'arrive plus à penser. Et d'ailleurs, à quoi bon? Qui ça intéresse, ce qu'elle pense? Ce sentiment de n'être plus rien lui vient très vite, comme l'infâme sensation qu'on lui enlève même ses masques, ses peaux, comme pelure d'oignon. Se préparer un petit plat, aller dans les magasins pour les achats de Noël, se faire belle, tenir propre sa maison, elle ne fait plus. La Sainte Famille dans la crèche de Noël, cette année encore, lui soulève le cœur. Cette période de l'Avent, fête de l'attente, de la naissance du petit enfant roi, la transpose dans une réalité bien moins iconographique. sa famille à elle n'est pas au complet. Il en manque un. Julien, où es-tu ? C'était donc un extrait du roman de Valérie Corré, À fleur d'eau, aux éditions Vérone. Une petite dernière pour la route, toujours avec Mourane, rentrer chez soi.
Des escales, des voyages, j'en suis revenu. Des rencontres de passage, rien retenu. D'où que l'on revienne et d'où que l'on soit, c'est bon de rentrer chez soi. Le chemin de l'école et les récrés, c'est pas si loin, pas si loin les devoirs sur la vieille toile cirée. Ça me revient, je n'imaginais pas qu'un jour ce serait si bon de rentrer à la maison. Pousser la porte dans le couloir tout doucement, faire quelques pas sur la poussière, passer le doigt et des fauteuils ôter les draps. C'est bon de rentrer chez soi. Rentrer chez soi. D'où que l'on revienne, c'est bon de rentrer chez soi. D'avoir tout essayé, mes souvenirs de côté, je reviendrai, je prendrai enfin le temps de voir qu'il n'y a rien d'urgent. Je t'attendrai, d'où que l'on revienne et d'où que ce soit, c'est bon de rentrer chez soi. Pousser la porte dans le couloir, faire quelques pas sur la poussière, passer le doigt et des fauteuils monter le drap. C'est bon de rentrer chez soi. Rentrer chez soi. Rentrer chez soi. Ouvrir les volets et les fenêtres, se retrouver, se reconnaître, renaître, rentrer chez soi.
Vous écoutez l'émission Autour du Livre avec Annick sur RTVFM.
J'espère que vous avez passé une agréable soirée en notre compagnie. Pensez-y, allez rencontrer les auteurs, hommes, femmes de notre région sur les salons du livre. C'est un grand plaisir que d'échanger avec eux. Faites-vous ce plaisir. Dernière émission autour du livre de la saison 2017-2018. Le prochain rendez-vous, eh bien, c'est en octobre. En attendant, bonnes vacances d'été.